qui a réussi à relever ce défi.
Le respect vis-à-vis de Gainsbourg, c'était de, voilà, que ça sonne bien, quoi. Pour moi, ce qui était important, c'était le phrasé, l'esprit et le son. À partir du moment où ces trois conditions, pour ma part, étaient remplies, voilà, j'étais content. Honnêtement, il y a des moments où j'ai eu une sueur froide, même pour vous dire toute la vérité.
Boris Bergman, dont l'un des titres préférés est celui chanté par le groupe The Rakes, reprenant une adaptation qu'il a faite du point sonneur des Lilas dans une version très rock. Just a man with a job.
You can call me how it you want. Voilà, c'était Edmond Sadaka pour cet album.
Radio G 101.5 FM. Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie au début du XXe siècle.
Poétesse et universitaire.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Dans cet extrait du chapitre 5 intitulé « Les bourreaux et victimes en mêlent leur récit »
pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent.
Je vous ai choisi un extrait du chapitre 9 intitulé «
Assise près de l'incubateur ». Espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du XXe et du XXIe siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Comment t'as cultivé le rondo et tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-tomi-
Amis auditeurs, bonjour. Nous avons choisi de vous lire en deux épisodes des extraits d'un essai intitulé « L'affaire de l'esclave Fursi ». Pour ce livre, le journaliste Mohamed Aissaoui a reçu le prix Renaudot en 2010. En effet, il a rendu compte de ce procès exemplaire et de ses investigations à la façon d'un récit émouvant et haletant. Son écriture, en empathie avec les faits, narre à la fois la démarche de Fursi, un esclave à l'île de la Réunion qui ose, en 1817, intenter un procès à son maître pour réclamer sa liberté et sa propre recherche des documents oubliés de l'histoire. Puisqu'elle ne concerne que celle qu'on déconsidère, car il n'était qu'esclave. Celui-ci s'appelle Fursi, parfois nommé Fursi Lori, du nom de son maître, et Mohamed Aissaoui, à travers ce récit et cette analyse des pratiques coloniales, lui rend un vibrant hommage. Mais voyons comment tout cela a commencé. Le 16 mars 2005, les archives contenant l'affaire de l'esclave Fursi étaient mises aux enchères à l'hôtel Drouot. Elles relataient le plus long procès jamais intenté par un esclave à son maître, 30 ans avant l'abolition de 1848. Cette centaine de documents, des lettres manuscrites, des comptes rendus d'audience, des plaidoiries, étaient de la plus haute importance et illustraient une période cruciale de notre histoire. Les archives, poussiéreuses, mal ficelées, mal rangées, croupissaient au milieu de bibelots sans intérêt. Le commissaire-priseur les a attribuées à l'État pour la somme de 2100 euros. Quelques jours plus tard, toujours à l'hôtel Drouot, l'un des clichés du baiser de l'hôtel de ville immortalisé par Doisneau était adjugé 155 000 euros. Les deux événements n'ont aucun lien entre eux, et ce n'est pas le roman de deux amoureux sur le parvis d'une mairie qui vous sera conté ici. Mais l'histoire de l'esclave Fursi, qui, à 31 ans, un jour d'octobre 1817, dans l'île de la Réunion que l'on appelle alors île Bourbon, décide de se rendre au tribunal d'instance de Saint-Denis pour exiger sa liberté. au nom de la justice. Il tient serré dans sa main la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce procès durera 27 ans. Après de multiples rebondissements, il trouvera son dénouement le samedi 23 décembre 1843 à Paris. Malgré un dossier volumineux et des années de procédure, on ne sait presque rien de Fursy. Il n'a laissé aucune trace, ou si peu. J'ai éprouvé le désir fort, nécessaire, impérieux de le retrouver et de le comprendre, de l'imaginer aussi. En 1808, à l'âge de 22 ans, Fursy a été légué avec sa mère à Joseph Lory, ainsi qu'en témoigne le testament établi par Madame Routier. Masse de biens. Une propriété à Saint-Denis. Cette propriété se compose d'une maison de pierre sur un terrain de 1500 m² avec un pavillon en bois, un magasin, une cuisine, une geôle pour les esclaves récalcitrants, une infirmerie, une fermette, une écurie pour les chevaux, un poulailler et 20 cabanes pour les noirs. Une sucrerie, une giroflerie, une cafeterie, de la vaisselle en argenterie estimée à 500 francs. Une armoire. 6 mulets estimés à 2500 francs. 4 bœufs estimés à 6000 francs. 17 esclaves estimés dans l'ensemble à 41 000 francs ayant pour nom et pour âge, fonction et origine. Un lot composé de Rémi, 42 ans, cafre, domestique. Sa compagne Minucie, 27 ans, cafre, cuisinière. Et leurs 3 enfants, 3 ans, 2 ans et 6 mois, estimés à 7 000 francs. Un lot composé de Jupiter, Malabar, 55 ans, sans profession. Sa compagne, maman, 38 ans, Malabar, femme à tout faire. Et leurs 4 enfants, Justin, 18 ans, noir de pioche, Séraphin, 16 ans, noir de pioche, Maddy et Mado, jumelles de 10 ans à la giroflerie, lot estimé à 22 000 francs. Les enfants sont en location pour une année. Justin, Malabar, 29 ans, né à Bourbon, commandeur dans la plantation du Sieur des Bassins, loué 100 francs par mois. Samuel, cafre, 24 ans, noir de pioche, noir récalcitrant, en fuite, non estimé pour l'inventaire. Madeleine, Malabar, 59 ans, femme à tout faire, sans valeur. Et son fils Fursy, Malabar, mulâtre, 30 ans, né à Bourbon, maître d'hôtel, jardinier et maçon, estimé à 7000 francs. Jamine, cafre, 16 ans, femme à tout faire, estimée à 1000 francs. La malheureuse a perdu son esprit. Mina, jeune négresse créole, laveuse, repasseuse, couturière, avec un enfant de 2 ans et un autre à naître, ensemble estimée à 4000 francs. Routier avait ajouté un mot destiné à Lory. Mon cher neveu et gendre, je te confie ma fortune que j'ai fait fructifier avec la seule force de mes mains. C'est à toi que je la laisse, et à toi seul, car tu as mon caractère et ma volonté. Je te conseille vivement de ne pas céder aux sirènes de l'affranchissement. Tu sais à quel point un esclave est un bien rare et difficile à rentabiliser. Dans le lot, seule Madeleine a été affranchie, il y a bien longtemps. Mais elle m'est restée fidèle. J'avais fait une promesse à Dieu et à Mademoiselle Dispense de la libérer. Je te demande de tenir mon engagement pour que je n'aie rien à me reprocher le jour dernier. Enfin, mon cher neveu, prends garde au filou. Les droits de succession ne devraient pas dépasser les 4000 francs. Je suis bien peinée à l'idée de ne plus te revoir, mais il me faut prendre ces dispositions. Je t'embrasse. Garde-moi dans ton cœur.
Poison la donne le cousin. Fait d'homme de rêve sans mou. Fait d'homme de rêve sans mou. Fait d'homme de rêve sans mou.
Constance, la sœur de Fursy, fut mariée à Georges Jean-Baptiste. Son mari, de 18 ans plus âgé qu'elle, lui disait souvent « Notre époque appartient à ceux qui savent lire et écrire. Ma chère épouse, je ne te laisserai pas de fortune et j'en suis affectée, mais je te transmettrai au moins ce peu d'instruction que j'ai acquise. » Elle signait toujours « Constance, veuve Jean-Baptiste ». À son tour, elle avait entrepris d'apprendre la lecture à son petit frère qui y prenait plaisir. L'élève avait dépassé le maître. Fursy écrivait remarquablement bien, en cachette. Il aimait lire aussi. Sa plume, son style rendaient envieux de nombreux notables. Séverine en était fière. La nuit, Constance se ménageait un peu de temps pour elle avant que la fatigue ne l'oblige à s'allonger. Cela ne durait guère plus d'une heure. Elle lui lisait souvent la Bible que lui avait laissée sa mère, un cadeau de Mlle Dispense. Et tous les samedis, elle se plongeait dans la Gazette de l'île Bourbon.
Nous intercalerons des documents de l'époque. Voici le premier extrait. La valeur moyenne d'un noir dans la force de l'âge et attaché à la culture, un noir de pioche, était de 1500 à 2000 francs. On estimait sa journée de travail à 1 franc 50. Il recevait 975 grammes de riz, ou 1 kilo de maïs, ou 2 kilos de manioc pour sa nourriture quotidienne. Cela valait 30 centimes. Il s'habillait avec une chemise, un pantalon de toile bleue ou une jupe de même étoffe. Il commençait à travailler à 5 heures du matin, déjeunait à 8 heures, dînait à midi et soupait à 19 heures. La durée totale des repas était fixée à 2 heures. Les noirs prennent peu de sommeil. Si l'on pénètre le soir dans une cabane, on y trouvera le noir, sa commère et ses enfants accroupis autour d'un foyer, car ils aiment à avoir du feu, même dans la saison la plus brûlante. Auprès de ce feu est une marmite. Un noir serait malheureux s'il n'était propriétaire d'une petite marmite pour y faire cuire des brèbes assaisonnées à sa manière, ses pois de cape et son maïs. À Bourbon, la vie est uniforme. Il n'y a guère plus de différence entre les jours qu'entre les saisons. Cette monotonie d'existence n'est pas contraire à la santé, mais elle donne le malaise et l'ennui. Extrait de l'Atlas national Mijon, partie concernant l'île Bourbon, notice rédigée par Ernest Poiré, 1842.
Tu m'aimes pourquoi peut-être, peut-être la passe ouvrée. Six coquillons en dette, tu es mon tissu manqué. Six coquillons en dette, tu es mon tissu manqué.
La sœur de Fursy, Constance, découvre dans les papiers de sa mère l'acte d'affranchissement de Madeleine en date du 6 juillet 1789. Et les démarches que cette dernière avait entreprises pour faire reconnaître la condition d'homme libre de son fils. Ce soir-là, elle avait décidé de mettre un peu d'ordre dans la malle laissée par sa mère. Il y avait de nombreux numéros de la Gazette de l'île Bourbon. Mais c'est un petit bout de papier qui attira son regard. Il contenait une vingtaine de lignes tout au plus. Un tampon lui donnait un air officiel. C'était un acte d'affranchissement dans lequel figurait le nom de sa mère. Ayant été requis par Madame Veuve Routier de lui accorder l'affranchissement de la nommée Madeleine, indienne, âgée de 30 ans, son esclave, en reconnaissance des bons services qu'elle lui a rendus et pour remplir l'engagement qu'elle a contracté en France de procurer la liberté à la dite Madeleine, qui ne lui a été donnée qu'à cette condition, vu la requête à nous présenter le 3 de ce mois, par laquelle la requête offre d'accorder à la dite Madeleine une pension de 600 livres et les vivres pour qu'elle ne soit point à charge à la colonie, nous, en vertu des pouvoirs à nous donner par Sa Majesté, avons accordé et accordons la liberté à la nommée Madeleine, indienne, la déclarons à tous et à chacun libre. Voulons qu'elle soit reconnue telle en toute occasion, pour par elle jouir et user des droits, privilèges et prérogatives des personnes nées de conditions libres, sans qu'elle puisse être pour ce troublée ou inquiétée pour qui que ce soit. Saint-Denis, 6 juillet 1789. Ce n'est pas possible. Ce doit être une erreur, avait été la première pensée de Constance. Sans doute la fatigue lui faisait-elle lire n'importe quoi. Elle se reprit puis relu plus lentement pour être sûr de ne pas rater le moindre mot. Constance fut prise de vertige. Des milliers de pensées se bousculèrent dans sa tête. Plus de 28 ans que sa mère avait été affranchie. 28 ans ! Et elle était morte comme une esclave, sans une tombe pour la protéger, ni un nom de famille. Constance ne savait plus à qui en vouloir. À cette dame routier ? À Joseph Laurie ? L'ignorait-il ? À sa mère et ses silences ? Comme guidée par une force invisible et un étonnant sang-froid, alors qu'elle aurait dû s'effondrer, la femme retrouva ses esprits. Si ma mère était libre, alors Fursy l'est aussi, se dit-elle. Épuisée, elle écarta tout d'abord les nombreux autres documents, puis elle se ravisa et ce qu'elle découvrit ajouta à sa stupeur. Elle tomba sur un ensemble d'une quarantaine de pages rassemblées en vue de l'affranchissement de Fursy. Le dossier datait de 1809. Il semblait bien argumenté. Ce dossier-là, c'était Madeleine qui l'avait patiemment constitué. À un moment, elle avait bien cru réussir à donner la liberté à Fursy. C'était tout le but de sa vie sacrifiée. Durant des années, elle avait essayé. Elle s'était battue contre Routier et Laurie, puis contre des avocats et contre un notaire qui l'avait escroqué. C'était ce qui l'avait tué, tous ces combats en vain. Car juste avant de mourir, sa maîtresse, Madame Routier, dans un moment de repentir, lui avait confessé avoir promis à Dieu et à Mademoiselle Dispense de la franchir. Sur son lit des dernières heures, elle avait demandé à son héritier de tenir cet engagement. Pour elle, c'était sa dernière volonté. Madeleine avait alors consulté un homme de loi qui l'avait informé que, selon la réglementation, Joseph Laurie lui devait 19 ans d'indemnité, des arrêages, selon son expression, pour avoir été maintenue en esclavage alors qu'elle était libre depuis 1789. Forte de cette information, la mère de Fursy était allée voir Laurie en lui disant qu'elle était prête à abandonner ses 19 années d'indemnité à condition que son fils soit libre. Joseph Laurie l'avait repoussée violemment. Il avait menacé de les tuer, elle et Fursy. Elle avait eu peur pour son fils. Elle aurait pu intenter un procès, mais faute de moyens, elle s'était abstenue. Madeleine opposa le silence à l'injustice. Cette belle phrase, j'aurais voulu l'écrire. Elle est de Gilbert Boucher, le procureur général de Bourbon, qui se saisirait de l'affaire. Elle figure dans le volumineux dossier que j'ai retrouvé. Il a dit exactement ceci. Est conduite dans sa demande, repoussée avec colère, intimidée par les propos menaçants de Laurie et craignant de voir rejaillir sur son malheureux fils les effets de la colère, Madeleine n'insista point. Elle opposa le silence à l'injustice, emportant l'espérance que tôt ou tard on ferait droit à sa réclamation. Malgré une vie de soumission, elle n'était donc pas aussi faible que Constance pouvait le penser. Je me demande qui aurait pu se battre autant qu'elle ? Qui aurait eu son courage dans cette situation-là ? Qui se serait confronté à des notables disposant de toutes les armes ? C'est grâce à ce dossier qu'elle avait méticuleusement rassemblé sans pouvoir lire que des années plus tard, son fils avait pu appeler la justice au secours. Quand on est analphabète, on sait mieux que personne la valeur des papiers. On les range soigneusement, en les visualisant bien. Certaines personnes qui ne savent pas lire sont capables de retrouver n'importe quel document administratif des années après l'avoir reçu.
Quelle gamonte mande la, quelle gamonte oui amont à moi. Quelle calotte te mande la, te la pas mettre la gueule banna, te la fête à moi. Quelle gamonte mande la, quelle gamonte oui amont à moi. Quelle calotte te mande la, te la pas mettre la gueule.
La nuit suivante, Constance
conscience de conditions libres parce qu'elle avait été rachetée par l'homme blanc qui probablement était son père. Va voir Fursi dans sa case et lui déclare « Maintenant, il faut réclamer ta liberté. Tu es libre, tu l'as toujours été. » Une première entrevue avec Laurie s'avère être une manipulation. Il promet à Constance la liberté de Fursi contre un arrangement financier. Mais Constance découvre que par deux fois, il n'a pas tenu ses promesses. Pourquoi en serait-il autrement maintenant ? C'est donc le 2 octobre 1817 que Fursi, avec l'aide de sa sœur, s'adressa au procureur général de la cour de Saint-Denis, Monsieur Gilbert Boucher. Ce dernier, dont la jeune femme venait d'accoucher, renvoya le dossier à son jeune substitut, Jacques Sully Brunet. Ce dernier écrivit à son supérieur, après avoir reçu Fursi et examiné son dossier, « Je pense que l'affaire est de nature à être traduite en justice. » Voici le commentaire de Mohamed Aïssaoui sur le début de l'affaire Fursi.
Qu'est-ce qui pousse un homme à tendre la main à un autre ? Un regard, une pensée suffit parfois. Presque rien. Gilbert Boucher n'hésita pas une seconde, et pourtant le risque était réel de tout perdre, de compromettre ce qu'il avait mis une vie à construire, sa carrière, sa famille, l'avenir de ses enfants, et aussi une multitude de petites choses qui n'ont de valeur que lorsqu'on ne les possède plus. Gilbert Boucher n'avait pas réfléchi. Il fallait aider Fursi et c'était tout. Était-ce le regard calme de l'esclave qui avait tout déclenché ? Peut-être. Il fallait lui donner toutes les chances de remporter ce procès qui semblait perdu d'avance. Par moments, le doute traversait l'esprit du procureur général. Pas pour son compte, jamais, mais pour celui de Fursi. N'était-il pas en train de gâcher l'existence de cet homme, fût-il esclave ? Boucher consultait les pièces du dossier dans son bureau au moment où Sully Brunet arriva. Il dit simplement à son substitut « Fursi a besoin de notre soutien. Il faut l'aider à monter une argumentation solide. » Ils vérifièrent le moindre article de loi et passèrent en revue tous les papiers de Madeleine et le mémoire qui avait été rédigé en 1809 en pensant y découvrir le détail qui ferait basculer le jugement. L'ensemble était complexe. Les réglementations se contredisaient parfois, mais elle semblait sérieux. Par chance pour l'esclave, le dossier contenait de nombreux arguments en sa faveur. Mais Boucher, en homme d'expérience, le savait, la loi n'est pas toujours juste. La soirée de travail avait été longue. Ils avaient terminé après 22 heures. Plus précisément, Boucher avait demandé à Sully Brunet de partir à 22 heures, tandis que lui continuait pendant une heure encore à peaufiner les pièces de ce qui allait être l'affaire de l'esclave Fursi. Et à y mettre de l'ordre. Les deux hommes s'étaient donné rendez-vous le lendemain, en début d'après-midi, pour se rendre rue des Prêtres, chez Célérine, la compagne de Fursi. Les deux hommes blancs, à l'allure bourgeoise, qui se rendirent rue des Prêtres à Saint-Denis, ne passèrent pas inaperçus. Dans la maison de Célérine se trouvait sa fille Clémentine, qu'elle avait eue avec Duverger, Constance et son fils aîné, le cousin Adolphe, et Fursi. Célérine invita Boucher et Sully Brunet à s'asseoir autour de la table. Fursi se tenait debout, à l'écart, mais pas trop éloigné. Ce sentiment de ne pas être libre ne vous quitte jamais, alors vous vous mettez en retrait. Personne ne l'avait remarqué, sauf lui, bien sûr. Il était le seul esclave dans cette maison. C'est Boucher qui parla le premier. Il porta son regard vers Constance et il dit « Nous pensons que Fursi a besoin de suivre un plan pour recouvrer sa liberté. » Puis, comme s'il avait entendu les pensées de Fursi et estimait qu'il était indélicat de ne pas s'adresser directement à lui, il se décala légèrement pour être en face de celui qui se considérait toujours comme un esclave. Boucher le regarda. Sa voix se voila, trahissant son émotion. Il lui parla comme s'il n'était que deux dans la pièce. « Vous devez vous regarder comme libre. Vous êtes un homme libre. » On n'imagine pas à quel point quelques mots simples peuvent agir sur le cœur d'un être. Depuis cet instant-là, exactement à partir de cet instant-là, Fursi ne cesserait jamais de se considérer comme libre. On peut dire qu'il était devenu différent. Pourquoi sa mère n'avait-elle jamais prononcé ces paroles? Avait-elle eu peur? Vous êtes libre. Vous l'avez toujours été. Le tribunal vous accordera cette liberté dont on vous a injustement privé.
Cependant, Fursi craignait de compromettre les siens et ses hommes qui souhaitaient l'aider. Aussi proposa-t-il d'envoyer une notification à Laurie afin d'éviter un procès. À cette lettre courtoise, Laurie répondit par la force. Conseillée par de Bassins, de Richemont, qui faisait office de commissaire général ordonnateur de Lille, il fit arrêter Fursi le premier dimanche d'octobre 1817, au motif qu'il voulait fuir. Voici comment Mohamed Assaoui raconte la scène et la commente.
Constance ouvrit. Il y avait 5 ou 6 gardes de police. Elle était tellement troublée qu'elle était incapable de les compter. Le juge de paix lui annonça que le fugitif Fursi devait être arrêté. Elle n'eut pas le temps de commencer une phrase que les policiers se précipitèrent sur Fursi. Ils lui mirent des chaînes aux mains, et pendant que l'un d'entre eux tenait Fursi, 2 gardes de chaque côté lui enjoignirent de suivre le juge de paix. Fursi réclama son chapeau et son gilet. Les policiers n'entendirent rien. Alors Constance se dirigea vers le juge de paix et le supplia de laisser Fursi prendre ses affaires. L'homme de loi ne comprit pas l'intérêt de cette demande, mais finit par accepter. Ils allèrent à pied. La prison se trouvait rue La Bourdonnais, à quelques centaines de mètres de la rue des Prêtres. La scène dura 5 minutes à peine. Les gardes n'avaient pas pris de gants, mais la violence ne fut pas tant dans les gestes et la brutalité, non. La violence se nichait dans cette façon d'effrayer un homme et sa famille, de ne rien lui expliquer, de faire beaucoup de bruit pour attirer les regards et semer la honte ou la haine. Il partit enchaîné. Il ne baissa pas les yeux. De nombreux noirs virent la scène. Beaucoup s'approchèrent, menaçant les gardes du regard ou avec un bâton. Les policiers, armés, se tenaient prêts à tirer. Fursi leva les mains comme pour dire aux noirs de ne pas intervenir. Lors de cette arrestation mouvementée, Fursi n'opposa aucune résistance. Il se laissa tranquillement conduire en prison. Il y resta pendant 1 année. Affranchir Fursi n'aurait pas coûté grand-chose à Laurie. Maintenant que je le connais un peu, je suis sûre que le Fursi serait resté chez son ancien exploitant comme sa mère l'avait fait avant lui, s'il avait été déclaré libre. Il n'y aurait jamais eu ni affaire, ni bruit. Mais les colons de Bourbon étaient impitoyables. 23 esclaves seulement avaient été affranchis en 4 ans. Quand l'île appartenait aux Anglais, entre 1810 et 1815, 5 000 esclaves avaient recouvré la liberté dès leur première année d'administration. Enfermés. Après une vie d'esclave, une existence de prisonnier. Que pouvait bien penser Fursi maintenant qu'il se retrouvait dans la geôle de Saint-Denis? Il me semble qu'il n'a jamais douté. Même enfermé, il faisait encore peur aux plus puissants des hommes de l'île. Des Bassins de Richemont étaient furieux. Ils savaient que chaque jour, chaque heure, des noirs, beaucoup de noirs libres, parce que libres de leur mouvement, rendaient visite à l'esclave prisonnier. D'autres, toujours aussi nombreux, passaient à côté de la prison et faisaient du vacarme de manière que leurs frères d'infortune n'aient aucun doute sur leur message, Ils le soutenaient. Certains chantaient. Il y avait des blancs aussi qui passaient par là. J'imagine que dans ces moments-là, Fursy éprouvait quelque réconfort. Céline y passait 3 ou 4 fois dans la journée. L'avantage d'habiter près de la geôle. L'emprisonnement dura une année, jusqu'en décembre 1818, et cette manifestation pacifique est allée s'accroissant. Plus tard, on apprit que Fursy avait été hospitalisé suite à un grave malaise qui l'avait laissé sans connaissance. On l'avait cru mort, et le médecin de la prison avait mis tout en œuvre pour le sauver. Desbassins ne savait comment gérer cette situation. Il commençait à paniquer. Ses craintes atteignirent leur paroxysme quand on lui rapporta un fait particulièrement irritant. On entendait, ici ou là, jusque dans les coins reculés de l'île, que des esclaves parlaient de Fursy. Son combat leur donnait espoir de recouvrer eux aussi la liberté. Agacé, Desbassins convoqua Lori chez lui à l'heure du café. Pour le riche colon, il n'y avait plus d'alternative. Il fallait déporter Fursy hors de Bourbon. Lori acquiesça. Cela tombait bien. Il possédait une habitation à l'Île-de-France que gérait sa famille.
Petite annonce parue dans la Gazette de l'île Bourbon le samedi 19 mars 1831. À vendre. Graines potagères très fraîches chez Monsieur Parizeau. À vendre. Au comptant et à terme, en billets au gré du vendeur chez Martin Ébéniste, lit, table, ronde, console, etc. Le même a un parc de 400 planches à vendre. À vendre, une jeune négresse créole, bon sujet, sachant laver, repasser et coudre. Très bonne nourrice, ayant un enfant de 2 ans et enceinte de 6 mois. Cette négresse, appartenant à Madame Veuve Cyril Routier, est mise en vente pour cause de départ. S'adresser à Monsieur Alaric Routier. À vendre, 2 terrains en placement, situé rue de la Boucherie. Clos de mur et susceptible de recevoir chacun un pavillon de 12 pieds sur 18, avec une cour. S'adresser à messieurs Bonin Frères, rue du Conseil, numéro 25. Chez Élie Delon, au coin rue du Conseil et de l'Embarcadère, chaux éteinte à 7 livres de 100 au comptant. Petite annonce parue dans la Gazette de l'île Bourbon le samedi 19 mars 1831, citée dans « De la servitude à la liberté, Bourbon, des origines à 1848, Océan Édition ».
Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour la seconde partie de l'affaire de l'esclave Fursy. La musique que vous avez entendue est celle de l'album de Daniel Varro, Varou. Plus d'un siècle après Fursy, ce réunionnais chante la révolte de tout un peuple. Cette émission a été préparée et lue par Anne. Par Vincent.
Chers auditeurs,
Si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez.
Radio G 101.5 FM.
SOS Amitié Maine-et-Loire est avec vous face à la crise sanitaire actuelle. Les bénévoles vous écoutent par téléphone, chat et messagerie tous les jours, toutes les nuits, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avec le confinement, beaucoup découvrent aujourd'hui un isolement qu'ils ne connaissaient pas. Et nous savons au quotidien qu'un lien à l'autre est vital, quelle qu'en soit la forme. SOS Amitié propose ce lien en Maine-et-Loire par téléphone, de jour comme de nuit, ainsi que par chat et messagerie. Besoin de parler ? Ne restez pas isolé, contactez SOS Amitié. Par téléphone au 02 41 86 98 98, par messagerie et chat sur www.sos-amitié.com.
Alerte coronavirus. Si vous avez de la toux et de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Dans ce cas, restez chez vous. Limitez les contacts avec d'autres personnes. Appelez votre médecin. La maladie guérit en général en quelques jours avec du repos, mais si les signes s'aggravent, que vous avez des difficultés importantes à respirer et que vous êtes essoufflé, appelez le 15 immédiatement. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
À perdre les amitiés foireuses, l'ombre du chien qui plane sur les femmes de passage, les passants du passé, les issues sans secours, la tête sans les neurones, les paroles sans message. Tellement de choses à perdre, les dents, le pognon, la veste, les galons, les poches du pantalon, les droits, les devoirs, la mémoire, la raison, la fin de l'histoire. Mourir de vivre. Perdre sa vie sans rien gagner, perdre son temps à le chercher, perdre sa vie à la retrouver. Une vie trop courte pour ne pas la gâcher, pour ne pas la brûler, vivre en mourir. Tellement de choses à perdre, la vie à deux qui tue, les infidélités, le goût de la vérité, le désir qui dépanne, la folie des étoiles, le prix du quotidien, les passions de l'été. Mourir de vivre. Vivre en mourir. Tellement de choses à perdre, la jouissance éphémère, le soupir des machines, la rumeur d'un remords, les nuages de l'usine, la fissure dans le mur, le poids des origines, la conscience de la mort, à se battre contre le vent, à lutter contre l'éternité, à chercher un trésor invisible dans le champ des possibles, vivre en mourir, mourir de vivre.